On est avec moi dans Matthieu chapitre 5. On verra pas mal de passages ce matin. D'ailleurs, je vais en lire un ailleurs pour commencer. On aura une petite introduction avant de lire ce passage, mais ça vous donnera le temps de trouver justement Matthieu chapitre 5. On va parler l'importance des petites choses. Et Luc chapitre 16, verset 10 nous dit: Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et c'est un verset, pour moi, que je connais bien, et je crois que beaucoup le connaissent, on l'a lu et relu, mais qui nous est facile de passer au verset suivant sans penser à ce que Dieu vient de nous dire dans ce petit verset qui implique tellement de choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, et on reviendra à cela, certainement lors de la conclusion, mais celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Parce que nous avons bien souvent la mauvaise habitude d'apporter plus d'importance aux grandes choses, n'est-ce pas? Ah ben, ça c'est important, c'est grand, et on veut tout de suite passer parfois justement à ces grandes choses. Et on a presque au point où on ignore les petites. Ah, ça, c'est un grand besoin, j'ignore ce petit besoin. Et la plupart des personnes ne prêtent pas beaucoup d'attention justement à ce qu'on pourrait considérer les petites choses. Même dans la vie courante, hein, parce que c'est grand, ça tape aux yeux, donc ça attire l'attention, les petites choses, ça passe plus inaperçu, etc. Les petits insectes et les autres choses, ben, ça n'a pas attiré notre attention de la même façon que si un éléphant passe dans la rue. Ou parfois juste dans les petites choses, ça se verra dans notre façon de travailler, de si on est minutieux ou non. Comme dans le temps, je me rappelle à l'époque, la prof de français qui a insisté à ce qu'on doit bien pointer tous les i, mettre tous les traits sur tous les T, etc. Et alors qu'aujourd'hui, c'est... Ouais. Mais pourtant, les petites choses sont importantes. Hein, et ce sont souvent, parfois, les petites choses qui vont nous causer des grands problèmes. On a cette façon de dire, n'est-ce pas, ce grain de sable qui vient et qui, dans la machinerie, qui empêche toute la machine à fonctionner correctement. Ce n'est pas nécessairement le gros truc qui tombe dedans, c'est juste quelques grains de sable au mauvais moment, au mauvais endroit, dans toute cette grande machinerie qui arrête le tout. Et on a tendance à minimiser l'importance des petites choses, à se dire qu'à cause de leur taille, et à cause du fait qu'il y a d'autres choses qui nous semblent plus importantes, que ce n'est pas grave si on ignore les petites. Et vous savez que petit ne veut pas dire nécessairement non important, et ou sans puissance non plus. Quand la NASA a envoyé la première personne sur la Lune, l'ordinateur, si on veut appeler ça l'ordinateur, alors que c'était des tours qui remplissaient une grande pièce, ils avaient besoin de tout cela pour aider à faire les calculs, etc., pour envoyer cette première personne sur la Lune. Et aujourd'hui, notre petit téléphone est 100 fois, voire 1000 fois plus puissant que cette pièce remplie qui composait cet ordinateur de l'époque. Petit ne voulait pas dire moins puissant, au contraire. Mais nous regardons donc aujourd'hui tout simplement à l'importance de ces petites choses de la vie. Et surtout du point de vue de ce que Dieu les voit et de la Bible, de ce qu'elle nous enseigne. Et j'aimerais qu'on prenne le temps de voir trois choses. La première sera de, si nous ignorons les petites, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'elles ne deviennent de grandes choses. La deuxième chose qu'on verra du volant, c'est que nous serons plus souvent tentés par les petites choses que par les grandes. Et on terminera avec que Dieu aime utiliser les petites choses pour accomplir sa volonté. Alors, la première chose, hein, que oui, on doit s'occuper des petites choses avant qu'elles ne deviennent grandes. Et là, vous avez votre passage en Matthieu chapitre 5. On va lire quelques passages et sauter des versets. Je vous dirai au fur et à mesure que nous avançons dans cette petite lecture. Vous savez le contexte, hein, c'est le sermon sur la montagne, il commence avec tous les heureux, etc. Et beaucoup de choses on a eu beaucoup de prédications là-dessus, avec beaucoup de choses à tirer de ces leçons. Mais on va sauter jusqu'au verset 21. Et à partir du verset 21 et suivant, on va voir une chose que Dieu dit, qu'il redit ou que Christ redit régulièrement. Verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Et voilà ce que Christ va redire à chaque fois. Mais moi, je vous dis que. Dit, vous avez entendu, ça c'est votre opinion, c'est l'opinion du monde, mais voici ma volonté, voici ce que moi je pense sur la question. Dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par la Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Donc, à chaque fois, Dieu va dire, le monde dit, ça c'est important, ça c'est grand, il ne faut pas hein, tuer. Ça, c'est un grand péché, pour ainsi dire. C'est un grand mal. Il dit, mais moi, je vous dis, ma vision de la chose, ceci n'est pas plus petit, c'est de la même taille, ou c'est même peut-être pire. Celui qui se met en colère contre, ah, mais ça, c'est pas aussi grand que de tuer quelqu'un. Il dit, mais moi, je vous dis que si. Le monde pense comme cela, mais moi, je ne pense pas comme cela. Et à chaque fois, c'est ce qu'il va nous rapporter, versets 27 et 28. Il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est grand, c'est une faute grave. Mais moi, je vous dis, la façon que moi, Dieu, je vois la chose, que quiconque regarde à une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pour moi, c'est tout aussi grave. C'est pas plus petit, c'est pas moindre. C'est pas une petite chose qu'on peut ignorer parce qu'on pense que c'est moins grand. Verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Il dit à chaque fois, voilà ce que le monde pense, ce qui est une grande chose et que les autres choses que je vais vous dire sont moins importantes. Mais moi, je vous dis qu'à mes yeux, ce ne l'est pas le cas. C'est tout aussi important. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est normal, selon le monde. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Autrement dit, si vous voulez me suivre, vous vous dites être mes disciples. Arrêtez d'agir selon ce qui est normal selon le monde. Agissez selon ce qui est normal selon moi, selon Dieu. Et versets 47 et 48, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, ou ce mot veut dire complet, comme votre Père céleste est parfait. Complet, on comprend, il ne manque rien. À chaque fois, Dieu nous rappelle, on ne peut pas juger sur ce que nous pensons être grand ou petit, basé sur notre connaissance de ce monde. Parce que ce monde ne voit pas les choses de la même façon que Dieu les voit. On doit les juger selon ce que Dieu nous déclare dans sa parole, ce que lui dit être important, ce que lui dit qu'on ne doit pas ignorer. Et Dieu nous déclare à travers les Écritures, par différentes façons, soit par les exemples des personnages que nous y trouvons, des choix qu'ils ont faits dans leur vie, que à travers des directions plus directes, à travers des versets qui nous disent exactement faites ceci, ne faites pas cela, etc., que à ses yeux, il n'y a pas vraiment de petites choses. Parce qu'il sait très bien que les petites choses deviendront toujours grandes, surtout dans le domaine du péché. Et les petits péchés deviendront toujours de grands péchés si on les laisse non confessés. Et comme on le dit souvent, peu importe le péché que nous avons commis, si c'est grand à nos yeux ou non, même si c'est ce que nous considérons comme étant un tout petit, si on le laisse non confessé, on se dit, oh, c'est une petite chose, c'est pas si grave. Elle fera toujours, comme on a l'expression, il me semble, de l'effet boule de neige. On va dire, oh, mais l'exemple facile, c'est celui du mensonge. Oh, je lui ai donné juste un petit mensonge. C'était même pas vraiment un mensonge. J'ai omis de dire la vérité. C'est rien. Mais cette omission volontaire, bah, de par la suite, si on ne le règle pas, si on ne l'avoue pas, si on ne dit pas la vérité quand même, bah, il va falloir un autre mensonge pour la couvrir, puis un autre mensonge pour la couvrir. Et puis, c'est mensonge sur mensonge, et cette petite boule de neige qui descend la montagne, qui a commencé comme ça, et maintenant devient ce truc énorme qui nous écrase. Parce qu'on s'est dit, c'est une petite omission, c'est pas si grave. J'ai fait de mal à personne. Et c'est tout péché qu'on refuse de confesser ne restera absolument jamais tel qu'il est. Il viendra toujours tirer d'autres péchés vers ce premier pour essayer de le couvrir, pour essayer de l'excuser. Tant qu'on ne le confesse pas, elle ne restera pas petite, jamais. Et d'ailleurs, n'est-ce pas pour cela qu'aujourd'hui, on ne regarde pas les choses de la même façon qu'il y a, j'ai envie de dire 30 ans, mais on n'a même pas besoin de retourner aussi loin que temps maintenant. On peut dire, le monde ne voit plus les mêmes choses d'il y a 10 ans seulement. Hein, le mariage n'est pas vu de la même manière. Le concubinage, l'adultère n'est pas vu de la même manière aujourd'hui d'il y a même rien que 10 ans. Pour que nous en arrivions là aujourd'hui, il a fallu qu'à un moment donné, qu'on néglige les petits signes qui nous pointaient vers cette direction. On a peut-être même entendu des personnes nous mettre en garde, donner des avertissements, et si on ne faisait rien, que ce petit groupe de personnes, qui à mon sens, oui, c'est des personnes perverses, allait nous obliger à changer notre façon de vivre et même notre façon de parler, ou au moins essayer de le faire. On a peut-être même ri à l'époque en croyant que cette personne exagérait, que ça n'arrivera jamais. Après tout, ce n'est qu'un petit groupe très, très loin de la majorité. Mais les petites choses deviendront toujours grandes si on les laisse telles quelles, si on ne s'en occupe pas quand elles sont encore petites. Et malgré le fait qu'on sait cela, qu'on sait qu'il vaut mieux s'en occuper tout de suite, on regarde quand même à la chose comme étant pas si important, parce que c'est pas si grand à mes yeux, c'est petit. Et donc c'est plus facile de le mettre de côté, de l'ignorer. Et c'est là notre erreur. Ce n'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas important. Attention, on ne parle pas de faire toute une histoire d'un rien du tout. Ah, ça, il y en a qui sont très doués pour cela. On n'a pas besoin de cela. On parle tout simplement de choses qui devraient être faites, mais qu'on tarde à le faire parce qu'on ne pense pas que c'est important au moment présent. On choisit trop souvent la facilité, l'excuse de ne pas vouloir offenser quelqu'un pour ne rien dire, alors qu'on devrait peut-être prendre position. Ou refuser une confrontation en disant bah, ce n'est rien, ça ne vaut pas la peine, ce n'est qu'une petite chose. Au lieu de prendre position pour Dieu. Pas d'être arrogant, pas d'être provocateur, mais parfois on se tait pour le bien de ne pas confronter ou être mal vu, parce qu'on dit c'est pas si important que cela, c'est une petite chose. On voit que on a mal agi, on n'est pas très fier de nous, on n'est pas très content de ce que on s'est tu, mais on se dit c'est pas si grave. Au pire, on réglera ça peut-être plus tard. On pense que ce n'est qu'une petite chose après tout. Et Et le plus qu'on attend, le plus que cette chose a la possibilité de grandir, alors que si on s'en occupait tout de suite, c'est réglé. On l'empêche de grandir et de prendre plus d'ampleur et faire plus de mal. Surtout quand il s'agit du péché dans notre vie personnelle. Parce que oui, on peut parler des autres, de ce qui se passe autour de nous, de ce que les autres font et ne font pas, de ce qu'ils devraient et ne devraient pas. Mais à la fin, ça en reviendra quand même toujours à ma vie, ma relation avec Dieu, ma communion avec lui, mon obéissance à lui. Est-ce que ça m'embête de ne pas faire sa volonté dans ce domaine-là à ce moment précis, parce que je préfère ne pas faire friction? Je ne veux pas offenser l'autre, alors je choisis d'offenser Dieu. En ne comprenant pas que on ne peut pas choisir les deux. On ne peut pas laisser les deux non offensés. Dieu ne peut pas ne pas être offensé quand on choisit délibérément de ne pas l'obéir, de ne pas prendre position pour lui, de ne pas témoigner pour lui, de ne pas vouloir confesser mon péché, de ne pas vouloir admettre que j'avais tort, moi. De se dire, oh mais, je n'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, ce n'est rien. C'est une petite chose, ce n'est pas si grave. Et Dieu est là, il dit, bah, pour moi, j'aurais bien voulu que tu la lises. Est-ce que lui la voit de la même façon? Nous, on te dit, oh mais est-ce que Dieu est si intransigeant? Je n'ai pas dit qu'il a arrêté de nous aimer, je n'ai pas dit qu'il a arrêté d'être miséricordieux, je n'ai pas dit qu'il a arrêté d'être compatissant et plein de grâce, mais est-ce que ça lui fait plaisir? Et on essaye de minimiser les choses. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Si c'est une petite chose, ce n'est pas si grave. Mais toute chose qui est liée à notre obéissance, qui est liée à notre péché, va toujours grandir. Tant qu'on ne voit pas la chose telle que Dieu le voit. De reprendre l'exemple que nous avons vu maintes et maintes fois, rien que dans ce seul chapitre de Matthieu 5, le monde dit ceci, même les autres chrétiens peuvent dire cela, mais moi je vous dis que, de quelle façon est-ce que Dieu voit la situation? De quelle façon est-ce que Dieu voit ma situation, mon cœur, mes choix? Est-ce que lui, si vous pouvez me dire que Dieu est d'accord, que Dieu est en phase avec ma décision, avec mon choix, avec ce que je fais, que ça plaît à lui, alors moi je n'ai rien à lui dire. Tout est parfait parce que je ne peux pas savoir mieux que lui. Mais bien souvent, nous savons très bien que Dieu ne serait pas d'accord, que ça ne va pas lui plaire. Et on essaie de minimiser la chose. Il faut faire attention aux petites choses, parce que les petites choses, surtout quand il s'agit du péché dans notre vie, ne resteront pas petites, elles vont toujours grandir. Et il faut se rappeler aussi que Dieu nous laissera faire l'expérience des petites choses avant de nous donner les grandes. C'est la façon que Dieu voit les petites choses dans notre vie aussi. Matthieu chapitre 25, verset 21, nous dit, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc ce passage est tiré du parabole des talents. Et Dieu dit cette phrase au serviteur à qui il avait donné 5 talents, qu'il avait mis au travail, il en avait eu 5 autres, donc il en avait 10 à la fin. Il a dit la même chose au serviteur à qui il avait donné 2 talents, il les avait mis au travail, il en avait reçu 2 autres, il en a eu 4 à la fin. Pour les deux, il a dit, je t'ai confié peu de choses, petites choses. Parce que tu as été fidèle en petites choses, je peux t'en confier beaucoup, des plus grandes. Et seul le serviteur avec qui il avait donné un seul talent, qui avait reçu, refusé de le mettre au travail, qui l'avait caché, etc., que Dieu l'a repris sévèrement. Et Dieu veut qu'on fasse quelque chose avec ce qu'il nous donne. On ne doit jamais regarder à la taille de notre tâche que Dieu nous confie pour savoir si nous allons obéir ou non. La seule connaissance de c'est ce que Dieu veut que je fasse, c'est la seule connaissance qui devrait être suffisante pour savoir. C'est ce que Dieu veut que je fasse, alors c'est ce que je vais faire. Peu importe si c'est une petite chose à mes yeux ou une grande chose. Et de savoir que si j'ai des aspirations à ce que Dieu m'utilise grandement pour lui, à faire de grandes choses pour lui, ben il faut que je commence à être fidèle aux petites choses qu'il me donne aujourd'hui. On regarde notre cœur. Et si notre amour pour Dieu est sincère, il n'y a absolument rien qu'il puisse nous demander de faire, qu'on refusera de faire, peu importe si la tâche semble grande ou trop difficile, on obéit par amour en plaçant notre foi en Dieu pour nous aider à accomplir cette volonté. Si la tâche que Dieu nous demande de faire semble petite et insignifiante, ben c'est pareil. On obéit par amour pour Dieu en sachant que notre travail pour Dieu n'est jamais en vain. En plus, qui dit qu'il n'y a pas de bonnes choses à apprendre dans les petites choses que Dieu veut nous faire faire? Si un chrétien fait face à de grands changements dans sa vie, de grandes décisions avec de grandes responsabilités, et se demande pourquoi il n'arrive pas à voir la main de Dieu dans tout ça, c'est peut-être, pas forcément, mais c'est peut-être parce que ce même chrétien n'a pas laissé Dieu travailler dans les petites choses, dans les petites décisions dans sa vie avant d'en arriver là. Si on veut avoir l'habitude d'entendre Dieu quand les grands besoins et les grands problèmes sont là, il faut qu'on ait déjà l'habitude d'entendre Dieu quand tout va bien. Dieu veut travailler en nous, il veut travailler avec nous dans les petites choses comme dans les grandes. D'ailleurs, comme on l'a dit, on l'a répété, ce qui est grand à nos yeux ne le sont pas aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est petit et grand à ses yeux? Donc n'ignorons pas les petites choses. On connaît tout ce petit dicton qui dit, n'est-ce pas, occupe-toi des petites choses et les grandes se chargeront d'elles-mêmes. Une autre façon que je préfère pour dire cela est de dire, occupe-toi des petites choses comme si elles étaient grandes. Et Dieu t'aidera à t'occuper des grandes choses comme si elles étaient petites. Et c'est ce que je pourrais faire voir la chose, parce qu'on inclut Dieu dans cette équation, et ça change tout. Quelqu'un a dit, il importe peu la taille d'une personne, si un petit gravillon vient à entrer dans sa chaussure, cette personne sera inutile jusqu'à ce qu'il enlève ce gravillon. Il refusera d'arrêter de marcher en boitant et en se faisant mal avec chaque pas qu'il prend. Et il dit, c'est qu'une petite pierre, un petit gravillon dans la chaussure. Oui, mais il faut se charger, il faut s'occuper de ces petites choses. Parce qu'au long terme, elles ne restent jamais petites. Alors pourquoi on dit ça tout ce matin? L'une des raisons, c'est pour qu'on n'oublie pas que Dieu est au milieu de nous. Et là où Dieu travaille, ce n'est jamais en vain. Et que ce soit la taille de notre Église, que ce soit nos capacités personnelles comparées à d'autres, pourraient sembler comme étant bien petites parfois, mais peu importe. Nous devons nous mettre à la tâche des petites choses comme si elles étaient des grandes, et Dieu nous aidera à faire face aux grandes choses comme si elles étaient petites. Parce qu'on ne travaille plus pour nous, pour être bien vu des autres, pour notre propre glorification ou plaisir personnel, on est vraiment ce qu'on dit des serviteurs de Dieu. Ne croyez-vous pas que Dieu sait ce qu'il fait? Si Dieu nous demande de nous occuper d'une chose plus grande, alors on n'a qu'à obéir. Le tout, c'est de commencer en ne pas négligeant les petites et non nous dire, ah, là, c'est vraiment important, il faut que j'y fasse attention et que je sois sérieux. Alors que Dieu voudrait qu'on soit sérieux même dans ces petites choses. Une autre chose qu'on peut dire par rapport aux petites choses, c'est pas seulement qu'elles deviendront grandes si on ne s'en occupe pas tout de suite, mais que Satan nous tentera avec des petites choses plus qu'avec les grandes. Satan, par exemple, sait qu'il ne peut pas me tenter à cambrioler une banque. Ce n'est pas une tentation que j'ai, heureusement. Mais il sait qu'il peut me tenter à voler Dieu, de tout ce qui lui appartient, aussi bien mon argent que mon temps, que mon service, que mon adoration, et la liste peut continuer. Toutes les choses qui appartiennent à Dieu, que je me dois de lui donner, que je ne le donne pas, c'est du vol. Je le garde pour moi. Et il me tentera avec ce qui pourrait être considéré de ces petites choses, mais qui ne le sont pas si petites que ça. Satan sait qu'il ne peut pas me tenter à tuer quelqu'un, du moins jusqu'à présent. Mais il sait qu'il peut me tenter à haïr une personne et faire en sorte que mon témoignage soit inutile, mort envers cette personne. Et je pourrais continuer la liste, n'est-ce pas, toute la journée. Des choses qu'il pourrait être considérées comme étant grandes. Il ne peut pas me tenter avec ces grandes choses. Mais il sait qu'il peut me tenter avec ses petites, qui font tout autant de mal, qui sont tout aussi nuisible. Et si Satan peut nous apprendre à accepter les petits péchés sans problème, alors un peu plus tard, il nous fera accepter les plus grandes. Parce que lui ne sera jamais... Il ne va jamais accepter à ce qu'on on s'arrête là. S'il peut nous faire accepter des petits péchés, il va dire, ah, c'est bon, j'ai accompli ce que je voulais, je passe à quelqu'un d'autre. Ah non, tu as accepté ça, super, maintenant tu peux accepter ça. Ah, et maintenant tu peux accepter ça. Il ne va pas commencer avec tout là-haut, il va commencer avec ce petit ici. Tu acceptes maintenant celui-là, tu acceptes celui-là. Le chrétien qui aujourd'hui a un problème avec le mensonge, qui a du mal à dire la vérité, il n'a pas commencé comme cela. Il a accepté de mentir, comme on dit, un tout petit peu. Un mensonge qui ne lui semblait pas trop grave. Il ne le faisait pas souvent au début, mais aujourd'hui, il a du mal à dire la vérité. Il n'a aucun problème même à utiliser le mensonge s'il pense que ça va l'aider. Alors qu'au tout début, ça le gênait au moins un petit peu de mentir. Aujourd'hui, il est devenu insensible. Mais ça n'a pas commencé tout de suite, du jour au lendemain, à être insensible. C'était un acheminement. Un peu, de temps en temps, des exceptions, mais qu'on ne règle pas, qu'on ne confesse pas, qu'on n'avoue pas qu'on avait eu tort. Et ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. Le chrétien qui ne lisait, qui avant lisait sa Bible régulièrement et allait à l'église régulièrement pour adorer régulièrement, qui ne le fait plus aujourd'hui, il n'a pas changé du jour au lendemain non plus. Il a raté une journée ici et là, un dimanche ici et là. Et ça le gênait au début. Mais le plus qu'il ratait, le moins qu'il était gêné. Il se disait, oh, ce n'est que cette fois-ci, c'est pas si grave, c'est petit. Et le voilà maintenant avec sa Bible qui est en train de prendre de la poussière. Et l'église qui est devenue plus un souvenir qu'une habitude. Ça n'a pas commencé comme cela du jour au lendemain. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13 nous dit, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Parce qu'il sait très bien que si on ne règle pas la tentation, elle ne deviendra que plus grande et plus grande et plus grande et plus grande. Je me rappelle, quand j'étais adolescent, un cousin à moi, on avait une forêt à côté de la maison de ma grand-mère. On s'amusait dans la forêt, on courait, on se pourchassait, etc. Je ne sais même pas exactement à quoi on jouait exactement. Je me rappelle juste qu'on courait beaucoup. Et quand on est revenu à la maison, on était dans l'entrée donnée sur la cuisine. Il y a une de mes tantes qui regarde à mon cousin et elle fait une tête effroyable. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et on voyait que ses yeux regardaient vers ses pieds. Alors, tout le monde regardait ses pieds, son pied droit, la chaussure était remplie de sang. Il se trouve que pendant qu'on courait dans les bois, il a marché sur un clou qui a transpercé son pied et il s'en était même pas rendu compte. C'est une fois qu'il l'a vu, il a commencé à avoir mal. Mais pour lui, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle a à faire toute une histoire? J'ai rien. Après, il dit, ah, si j'ai quelque chose quand même. Mais imaginez si on avait continué dans ce concept de dire, oh, ben, c'est rien, le clou, il n'est pas resté dedans, il a transpercé. C'est... Oui, mais... Le clou est depuis combien de temps dans cette forêt? S'il a été rouillé, si on le laisse et qu'on ne le désinfecte pas et que ça affecte la jambe, et puis ensuite il faut l'amputer la jambe. Il y a eu plein de choses qui auraient pu être bien pires si on a pris cette chose à la légère. Si on a dit, c'est rigolo de... Non. On dit, ouais, mais quand même, c'est un clou dans le pied, c'est pas à prendre à la légère. Mais justement... C'est comme ça que Dieu veut qu'on regarde à chaque péché que nous avons dans notre vie, de réaliser que ce n'est pas une petite chose. Il n'y a pas le moindre péché qui soit une petite chose. Il n'y a pas la moindre tentation qui soit une petite tentation. Oh, mais c'est pas grave, c'est pas si grave si je dis oui cette fois-ci. Le péché est pareil. Si on ne s'en occupe pas tout de suite, ce sera bien pire plus tard. Le temps est toujours l'allié du péché. Satan, lui, il rit, il aime quand on se dit « Oh, je réglerai ça, mais pas aujourd'hui. Ah, rien qu'une journée de plus, c'est une journée en ma faveur. Vas-y, prends ton temps. » Le péché ne va jamais diminuer avec le temps. Elle va toujours s'empirer, grandir. Donc, occupons-nous des petites choses avant qu'elles ne deviennent grandes. Disons non aux petites tentations pour que les plus grandes n'aient même pas l'opportunité de nous séduire. Et terminons avec cette dernière pensée. On ira bien plus vite, rassurez-vous, que nous pourrions croire qu'on est petit, nous. Mais Dieu aime utiliser les petites choses pour faire son travail. Je sais qu'on a lu ce passage dans le passé, vous le connaissez aussi bien que moi, en 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 27 à 31. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été faite pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous connaissez le passage dans les évangiles où Dieu a nourri la foule avec le panier de ce petit garçon. Il est facile de voir comment Dieu utilisa ce petit garçon qui avait juste quelques pains et quelques poissons pour nourrir plus de 5000 hommes, plus avec les femmes et enfants. La différence n'était pas la taille de ce garçon, la différence n'était pas la taille de son panier, la différence est Dieu. Et quand on le laisse lui être en charge de notre petite vie et de nos petits moyens. Les plus grands hommes de Dieu se considéraient comme étant petits à leurs propres yeux. Là encore, il nous serait facile de prendre l'exemple de l'apôtre Paul qui dit « Je suis le moindre des avortons ». Ce n'était pas de la fausse modestie de la part de l'apôtre Paul. Il se rendait compte qu'il n'était rien du tout, qu'il était moins que rien, mais qu'entre les mains de Dieu, que des miracles pouvaient se produire. Vous connaissez Gédéon? Il se disait être le plus petit de tous, le moins capable de faire quelque chose que les autres, alors que c'est lui que Dieu a utilisé pour délivrer le peuple d'Israël. La pierre que David mit dans sa fronde, quand il a rencontré Goliath, était petite. C'était une petite pierre. Ce n'était pas un trébuchet. Mais David savait que l'important n'était pas la pierre ou lui, mais que Dieu faisait toute la différence, qu'il dirigeait toute la rencontre et que cette pierre, quelques instants auparavant, qui n'était encore qu'une pierre inoffensive au bord du fleuve ou du ruisseau, une fois mise dans la fronde, contrôlée par Dieu, est devenue une arme terrible capable de terrasser un géant. Ou encore, pour reprendre l'exemple de l'apôtre Paul, même physiquement, on pensait qu'il était petit, et pourtant nulle autre personne n'a eu l'influence qu'il a eue. Il était de la plus petite tribu, du tribu des Benjamins. Pourtant, il s'est tenu devant les chefs de garde et devant des rois et des gouverneurs. Il a pu leur donner le merveilleux plan du salut comme nul autre. Le livre de Jude est l'un des plus petits livres du Nouveau Testament, et pourtant il porte un message très puissant sur le jugement de Dieu, sur le péché et sur les pécheurs. Même Salomon, quand on repense au début de son règne, il se sentait petit. Il demanda la sagesse car il se voyait incapable de diriger le peuple d'Israël de par lui-même. Et Dieu lui accorda son désir et bien plus, comme vous le savez. Dieu n'attend pas à ce que nous soyons grands avant de vouloir nous utiliser. Il attend à ce que nous voyons combien nous sommes petits et avons besoin de lui pour nous utiliser. Qu'importe le nombre d'années que je suis sauvé, qu'importe le nombre d'expériences que j'ai vécues, sans Dieu, je ne suis rien et je ne vaux absolument rien. Celui qui croit autrement, qui se croit être quelque chose, ne pourra pas être utilisé par Dieu tel que Dieu le voudrait. Je veux que le Seigneur puisse faire de grandes choses dans cette région, sur Amiens, dans la Somme, J'ai peur que bien souvent, ce qui l'en empêche le plus, c'est nous, plus que quiconque. On se focalise parfois un peu trop sur les choses que nous considérons comme étant grandes et importantes. Alors que Dieu nous encourage à la persévérance, à ne pas nous lasser, à témoigner, certes, mais à ne pas négliger notre pain quotidien non plus, notre temps de prière, notre vie spirituelle. À ne pas regarder aux rencontres d'église comme une petite chose, mais comme quelque chose de pas si grave si on la rate, pas si grave si on rate notre temps de lecture personnelle, pas si grave si on refuse de pardonner tout de suite. Je le ferai plus tard, peut-être. Dieu désire à ce qu'on regarde à toutes ces choses comme étant des grandes choses, parce qu'on le fait pour lui, par amour pour lui. Alors pour conclure, revenons à ce passage de Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Prenez-vous vraiment plaisir à vous occuper des petites choses? Comme il dit ici, à être fidèle dans les moindres choses. Fidèle, ça veut dire de ne pas terminer avant que la tâche ne soit finie. Les moindres choses, ça ne parle pas autant de la taille de la chose que du fait qu'elles sont considérées par les autres comme basses, sans honneur, c'est ce que ce mot veut dire, qui exige donc beaucoup d'humilité de notre part. Après tout, nous sommes des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? On préfère se voir comme des ambassadeurs. On a ce titre aussi. Mais ce mot serviteur revient bien plus souvent. Donc, on ne sert pas dans le but d'être reconnu, d'être approuvé des autres, ou recevoir un certain honneur ou une certaine dignité. Nous servons de façon à glorifier Dieu et non à nous élever nous. Dans ce cas, nous n'aurons aucun problème à nous occuper, à être fidèles dans les moindres choses, comme si elles étaient grandes et importantes, parce que mon maître me le demande. Il nous suffit de bien vouloir nous soumettre entièrement à Dieu pour être utilisés par lui. Notre taille, nos talents et nos dons ne changent en rien ce que le Seigneur peut faire avec et à travers nous. Ce n'est pas, ah, cette personne-là, elle est douée, Dieu peut l'utiliser plus. Ce n'est pas le cas. Cette personne m'aime de tout son cœur et se soumet à Dieu. Il peut l'utiliser plus. Seule notre soumission, notre foi échange quoi que ce soit. Dieu utilisera toujours la personne qui veut bien se soumettre à sa volonté, toujours. Pourquoi croyez-vous qu'il nous manque autant de serviteurs aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la France, elle n'est pas l'exception, les autres pays peuvent dire la même chose. Mais pour nous, ce qui nous concerne, c'est la France. Pourquoi nous manque-t-il autant de pasteurs français aujourd'hui? Peut-être parce que beaucoup trop de chrétiens n'acceptent pas de se soumettre par la foi, d'accepter la volonté de Dieu dans leur vie. Trop de chrétiens pensent qu'ils sont soit trop petits pour être utilisés, trop petits pour être utiles au service de Dieu. Alors que c'est là exactement ce que Dieu recherche dans ses serviteurs. Des personnes qui ont des grosses têtes et qui pensent être indispensables à l'œuvre du Seigneur, malheureusement, oui, il y en a un peu trop. Et ils ne font pas autant qu'ils ne le pensent pour le Seigneur. Ils travaillent certainement beaucoup, mais ils réaliseront qu'à la fin, beaucoup sera, comme la Bible dit, sera consumé par le feu, comme de la paille, et ne sera pas autant d'or qu'ils pensaient être. Mais que ça, c'est eux, et que ça ne soit pas nous. Efforçons-nous donc à toujours rester utiles pour le Seigneur. Restons petits à nos yeux pour que Dieu puisse faire de grandes choses à travers nous, et que ce soit évident que ce soit lui qui en reçoive toute la gloire. Parce que nous savons que sans lui, il nous aurait été impossible de le faire de toute façon. Terminons, si vous voulez, par un mot de prière.